Notes de comptoir. La vie du territoire au travers des cafés-concerts, bars associatifs, guinguettes et micro-lieux. Un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec SuperMab, le réseau des scènes et musiques actuelles, le collectif Culture Barbare et Radio Boa.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série consacrée aux micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne, Notes de comptoir. Dans ce nouvel épisode, direction le sud Morbihan, à Erdeven, au bord de l'eau, où on retrouve Sam Renault. Sam nous accueille au Kuta, un établissement ouvert depuis 15 ans qui propose une programmation artistique tout au long de l'année dans une commune principalement animée. En été. Membre du collectif Culture Barbare et devenu un lieu incontournable de la région, de nombreux artistes ont joué sur la scène du Kuta ou se sont battus pour y être programmés, qui donc, vous le saurez dans le reportage. Et juste après, en deuxième partie, on retrouvera Manuel Kémizet, alias El Maut. Manuel partagera son regard d'artiste musicien sur ces lieux que sont les cafés-concerts et micro-lieux, mais pour l'heure, direction Erdeven. Nous sommes le 7 septembre 2024 et c'est le moment de découvrir le Kuta. Un reportage réalisé par Garance Diaconou de Radio Balise, votre radio locale du Pays de l'Orient.
En plein hiver, il y a des soirs de tempête, le bar il est rempli. Et t'as vraiment une impression d'être un peu survivant à un truc. Enfin, moi j'aime bien ces ambiances de fin du monde. Salut, je m'appelle Sam, je tiens le Kuta, qui est un café-concert, à Erdeven dans le Morbihan, depuis 2008. Je suis arrivé pour faire du kitesurf, moi, ici. C'est les vagues qui m'intéressaient et le vent. Et en fait, ce que j'aime dans ce bled, c'est qu'il n'y avait rien de fait. Et du coup, il sait qu'il y a tout à faire, du coup, dans les endroits où il n'y a rien de fait. Moi, j'ai bossé au Vieille Charrue, j'avais 20 ans. J'ai été barman en saison, je faisais des saisons en montagne l'hiver. Et du coup, j'avais envie de mettre les deux en même temps, et le café-concert, c'était le bon projet, quoi. Et puis, j'ai aussi traîné, moi, dans les cafés comme les Hespérides à Plounéo-13, la ferme de Gwenandour à Brasparts, le Renard Punch à Châteaulin. Je suis né à Fougères, là où il y a le Coquelicot. Donc, c'est que des lieux emblématiques et des cafés-concerts, des petites salles où il se passe des trucs, en fait.
C'est quand même assez atypique d'avoir un café-concert à cet endroit-là. Je pense qu'habituellement, ce genre d'endroit, c'est plutôt en ville. Et là, c'est dans une commune de 3500 habitants, éloignée des grandes villes. Enfin, on est à 20 minutes. Mais on est plutôt à la campagne, quoi. Plutôt à la campagne, la plage qui est à 500 mètres. Voilà, c'est ça qui, pour moi, le rend atypique. Je m'appelle Jean-Charles, j'habite à Erdeven. Avec notre petite famille, on est là depuis 4 ans à peu près. C'est sûr qu'on est dans un endroit touristique, saisonnier, donc l'offre n'est pas du tout la même en période saisonnière que le reste de l'année.
Quand on arrive et qu'on ne connaît pas, je pense qu'on prend un peu peur parce qu'il y a forcément une route un peu pourrie. C'est un espèce de petit centre commercial construit dans les années 80. C'était un rêve d'architecte des années 80 qui se dit « Ouais, on va faire une station balnéaire, ça va être super. » Et ça n'a pas évolué depuis. Alors déjà, c'est un petit village, donc moi, je ne suis pas né ici. Et il y a ça un peu partout dans toute la France, je crois d'ailleurs. Un peu, quand tu arrives dans un petit village et que tu n'es pas né ici, on te le fait un peu ressentir au début, quoi. Et moi, quand je suis arrivé là, du coup, je n'avais pas assez de budget pour faire des concerts l'été. Donc, je faisais des concerts seulement de septembre à juin. J'ai fait ça 2008-2009. Et je l'ai fait à l'envers de tout ce qui pouvait être prédit, en fait. Normalement, tu fais des trucs l'été, et puis l'hiver, voilà, tu te mets un petit peu en dessous, quoi. Et en fait, moi, j'ai fait à l'envers. Je crois ça a un peu fait halluciner des gens dans le coin, de se dire, tiens, celui-là, il vient un peu différemment, en fait, quoi. On essaie de créer un autre projet et de prendre soin, surtout, des gens qui sont là toute l'année. Parce que finalement, qui c'est qui te fait bouffer? Est-ce que c'est des gens qui sont là une semaine par an ou c'est des gens qui sont là toute l'année, quoi?
Le catering de ce soir... On va faire des petites côtelettes d'agneau à la plancha avec des patates, des haricots de la ferme et des girolles de la forêt.
C'est là qu'est-ce qu'on va écouter ce soir?
Du rock'n'roll. Ça va être Moondrag ce soir, c'est bien.
J'ai baissé et est-ce que tu peux... aussi mettre un peu plus de basse encore. On est Moondrag, un duo de Paimpol. Donc deux frères. Et moi je suis le petit frère, je suis Colin et je fais de la batterie, je chante.
Et moi Camille, du coup le grand frère, orgue et chanteur.
Bon, on arrête de s'être concentré.
C'est assez marrant parce que quand on était gamin, on venait en vacances dans le coin, au camping de Kerilio, qui est juste à côté, là, il y a avec nos parents. Et depuis tout petit, quand on allait sur cette place-là, où il y a le Kuta, nos parents allaient boire des coups et nous, on était là. Ouais, il y a une scène, il y a une sono, il y a des instruments. Et genre, ça nous intriguait un petit peu, quoi. Et quand on a commencé à faire nos groupes de musique, en fait, on lui déposait tous les ans des maquettes qu'il mettait, bien sûr Sam, il mettait les maquettes sur la pile de maquettes à écouter.
Il n'écoutait jamais.
Mais du coup, ça fait, il y a 2 ans, il nous a contactés pour venir faire un concert au Kuta.
On était à la limite de dire non. En mode, ouais. Non, c'est trop tard maintenant. Non, tu aurais dû nous prendre il y a 10 ans. Mais en fait, on y allait, quoi.
Ouais. Et ça fait plaisir de voir un lieu que tu connais depuis longtemps et enfin tu peux y jouer, donc c'est plutôt sympa. Ouais.
On a commencé déjà Moondrag par jouer beaucoup dans des cafés-concerts, surtout quand on était sur Rennes. Maintenant il y a de moins en moins de cafés-concerts sur Rennes, beaucoup ont fermé, mais sauf que quand tu es un groupe qui débute, c'est super de commencer dans les cafés-concerts parce que tu commences vraiment à te familiariser avec le public, la scène et tout ça. Et en fait petit à petit, même quand ton groupe il évolue, t'évolues aussi avec les cafés-concerts, c'est-à-dire que c'est plus pour faire une date sèche sur un week-end, c'est parfois dans le cadre d'une tournée, il te faut une date sur la route, par exemple, plutôt que se bouffer 8 heures de route, tu coupes la route en deux et tu vas dans un café-concert. Et c'est là où c'est cool parce que tu peux vraiment créer une tournée entre des grosses dates et parfois tomber dans des cafés-concerts, quoi. Nous, aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas forcément en tournée, mais ça nous fait plaisir de revenir ici parce que c'est un lieu qu'on aime bien, quoi.
Ici, on paye les groupes en consommant des boissons diverses et variées, que ce soit de la bière, des cocktails ou des softs. C'est gratuit, mais les consommations sont majorées pour pouvoir se permettre de payer des groupes. Mais si les groupes veulent venir ici, c'est pas pour l'argent, c'est pour l'atmosphère qu'il y a ici. C'est parce que Sam, il fait monter les groupes à l'étage, il leur fait à manger le meilleur repas de leur vie. Les mecs, ils dorment ici, ils viennent, ils reviennent, et ils viennent pas pour l'argent, ils viennent vraiment pour le public qui est toujours enflammé. Moi, c'est Fanch, assidu du Kuta Bar et auditeur de Radio Balise. J'habite juste à côté du Kuta, j'ai 5 minutes à pied, donc c'est bon pour mon permis. Et je viens à peu près à tous les concerts qui se passent au Kuta parce que c'est le meilleur lieu qu'on peut avoir dans toute cette petite terre entre Van et Lorient perdue sur la côte. C'est un endroit à part grâce à Sam, ça fait 17 ans qu'il est là et on peut le remercier tous les jours de voir des grosses têtes passer. L'hiver, c'est assez disparate, on peut avoir des casseroles comme des groupes de fous, mais on vient quand même. Même sans connaître la programmation, on vient de bon cœur. Ouais.
Les commerces sont fermés là dans pas très longtemps. Là. Le dernier, je crois que c'est les vélos qui finissent en novembre, mais il y a un moment, l'hiver, on fait des hivers tout seul ici. Il y a ces deux saisons, mais aussi qui font partie, du prix à payer quand on vit en bord de mer. En fait, on sait très bien qu'on a des vies privilégiées, on habite dans des cadres qui sont magnifiques. Il y a un moment, on est obligé de partager ces espaces avec plein de gens. Et puis, il y a ce moment, l'hiver, où on se retrouve à vivre dans ces espaces qui sont un peu pour nous. C'est quand même un peu du luxe, quoi, quand même. La grosse différence, c'est la terrasse. En fait, nous, l'été, on a une terrasse qui fonctionne avec un créneau apéro où de 17h à 22h, on a du monde. L'hiver, on n'a personne avant 22h. En fait, les gens viennent vraiment pour voir les spectacles. Ça commence à 22h30. Et quasiment tous les hivers, on a des artistes qui sont en panique à 21h, qui voient le bar vide. Nous, on est avec Greg, là, en train de faire un baby. Et ils disent, mais t'es sûr qu'il va y avoir du monde? Je dis, ça va, tranquille, tout va bien. Et puis à 22h, les gens commencent à arriver. À 22h30, la salle, elle se remplit. Et on passe des soirées avec des jauges pleines en plein hiver aussi, quoi. n'y a pas vraiment de mort de saison du coup. Je passe 2 mois à l'automne à bosser là-dessus, où là je m'enferme à la maison avec l'ordi, à écouter plein de projets. Je pense que j'écoute 2000 projets à peu près sur cette période-là. Et on essaye d'avoir un truc un peu cohérent, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre d'avoir 4 fois de suite du reggae. Sinon ça marche pas en fait, donc du coup il faut avoir vraiment une espèce de vision un peu d'ensemble de la prog pour pouvoir passer d'une vibration à une autre. Et puis après donc, il y a le moment où on crée ça, et puis là où l'été là par exemple, là où on la voit se dérouler. Cette année j'ai regardé là, on apprend à mettre quasiment 50 groupes là sur le juillet-août là. L'été je crois que ma petite semaine j'ai fait 90 heures, c'était ma plus petite semaine quoi. Et l'hiver je fais 50-60 heures.
Est-ce que ça va ici ou quoi? Ok, on est Mondrag, on vient de Paimpol. On va commencer par un petit morceau qui s'appelle The Rider. On va faire un set de 30 minutes pour commencer, après on fera une pause. Après on reviendra pour faire un truc plus de temps. Vous êtes prêts ou quoi?
Aussi l'été quand même, t'as plein de communes qui vont avoir des programmations, donc Carnac, Quiberon, la Trinité, tout ça, on va avoir des programmations l'été, mais ça reste pour les touristes en fait quoi. Et du coup à l'année, il faut aller après soit à Lorient avec l'Hydrophone, soit à Vannes avec les Conova en fait. Mais finalement on se rend compte que la musique est faite dans les centres urbains, en fait la musique subventionnée c'est pour les gens, des gens qui vivent dans les centres urbains. Et donc ceux qui ont fait ce choix d'être un petit peu hors centre urbain, eh ben, y a un abandon, en tout cas de l'État au niveau culturel. Quoi. C'est toujours la problématique de nos petits lieux. Donc il y a le GIP Café Culture qui est une aide pour l'embauche des artistes dans nos lieux. Mais ça représente, je crois, moi c'est 2000 euros à peu près à l'année. Le budget artiste de l'an dernier, c'est 80 000 euros. Même pas un label café-concert. On peut même pas dire, ok, on est un débit de boisson labellisé café-concert. Nous, on s'appelle les café-concerts entre nous parce que c'est notre activité, mais en fait, il n'y a pas un truc qui dit, voilà, pour avoir le nom café-concert, il faut avoir ça, donc du matos pour sonoriser les groupes, par exemple, un peu de lumière, de quoi accueillir, faire plus que tant de concerts par an, avoir un budget qui est de temps. Ça n'existe pas, en fait, et ça n'a jamais existé. Donc, on s'auto-proclame café-concert, mais en fait, moi, je suis un bar de nuit. Sur papier, j'ai un code APE de barre de nuit uniquement. Café-concert, c'est pas une salle de concert. On est l'étape après la rue. D'abord, il y a la rue pour les artistes. Après, il y a les cafés-concerts qui vont emmener les artistes vers des salles un peu plus grosses. Et après, éventuellement, des festivals ou autres. Et puis, si demain, je commence, moi, à avoir une billetterie, c'est-à-dire si c'est payant, les gens vont choisir tel ou tel type de spectacle. Aujourd'hui, moi, je peux leur faire écouter du blues, de la soul, du rock psyché, de l'afrobeat. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il va y avoir un concert, qu'on est vendredi ou qu'on est samedi, et que ça joue. Et donc du coup, si demain c'est payant, ils vont se dire « Ah bah non, bah ça, moi je suis pas sûr que l'afrobeat j'aime, par contre j'aime le blues, alors j'attends la date blues. » quoi. Donc il y a aussi ce truc d'éducation un peu des publics, et puis de leur amener plein de sons différents, et les amener vers des sons qu'ils n'auraient jamais écoutés. Quoi. Et là c'est banco en fait, quand on voit des gens qui sortent d'une soirée en disant bah, « Moi c'est pas ma musique, mais alors c'était super. » Voilà, là on a tout gagné.
Ah, ça fait du bien retourner dans le club. Bah faites du bruit pour le Kuta alors.
Voilà. à l'instant un reportage enregistré au Kouta à Erdeven par Garance Diaconou de votre radio du pays de Lorient, Radio Balise. Dans notre série, nous essayons de comprendre comment ces micro-lieux fonctionnent, survivent. On aime savoir ce qu'ils diffusent en milieu rural, sur la côte, en ville. Ils font le lien entre les habitants, les mélomanes et les artistes ou groupes qui viennent proposer leur musique. Aujourd'hui, on voulait avoir le regard de l'un de ces artistes qui font vivre leur musique à travers ces cafés-concerts. Alors on a le plaisir d'avoir un musicien, beatboxer, chanteur, bien connu en Bretagne. Il s'agit de Manuel Kémisset, alias El Maout, et son truc à lui, c'est l'électro-buccal qu'il pratique avec sa bouche et à l'aide d'un looper. Bonjour Manuel.
Salut.
Pour commencer, comment réagissez-vous au reportage réalisé au Kouta à Erdeven?
C'est tout à fait intéressant. Après, j'ai été moi-même jouer dans ce lieu. C'est un super lieu, hein, vraiment, pour jouer, autant par les conditions de jeu, conditions techniques, et puis l'accueil, Sam, la bouffe, le logis, tout quoi. Donc c'est vraiment le genre de date où on a plaisir d'y aller. Et puis s'agissant du lieu, c'est vrai que c'est hyper important, notamment je me rappelle la notion et la volonté d'être ouvert à l'année, et de défendre cette position, de proposer des concerts ou un lieu de vie qui reste ouvert toute l'année et pas concentré uniquement sur les périodes de saison touristique, d'affluence, et au contraire d'être là, inscrit au quotidien pour justement inciter. Enfin, ça fait comme un aimant aussi, quoi. S'il y a ce genre de lieu qui existe, les gens ont envie peut-être de plus y rester aussi à l'année et pas penser la chose comme quelque chose de saisonnier. Donc je pense que je trouve important comme ce côté-là surtout, ouais.
Ouais, c'est ce qu'on comprend dans le reportage. Alors Sam du Kouta donc indique aussi dans le reportage que les cafés-concerts sont souvent les seconds lieux après la rue. Alors pour vous, Manuel, comment ça a commencé? Est-ce que vous avez commencé par la rue pour produire votre musique ou au contraire d'autres lieux?
J'ai commencé, ouais, non, si, c'est quand même globalement ça. Les deux, trois premières années, donc à partir de 2013-2014, les trois premières années où j'ai joué, j'étais... Je dirigeais toutes mes demandes, enfin toutes mes recherches et toutes mes demandes pour jouer. C'était des bars, des cafés-concerts. Et en effet, j'ai joué aussi dans la rue, notamment l'été, faire des demandes d'autorisation pour jouer à différents endroits, justement un peu touristiques ou quoi. Mais pour jouer tout simplement dans la rue ou en off, dans un festival à Binic, je me rappelle, ou... genre de truc, mais donc des conditions comme ça, on demande à un café, tiens, t'as pas une prise, je me mets là, je suis autonome, j'ai une sono, je me mets sur la terrasse, je joue une heure, deux heures. Donc oui, tous les trois premières années, je pense que j'ai beaucoup fait de bars et de cafés-concerts. Puis finalement, après, avec un peu de visibilité, on accède à d'autres lieux, comme les salles un peu dédiées, salles de concert, SMAC... et festival. Et puis malgré tout, en fait, pour autant, on continue d'aller jouer dans les cafés-concerts, parce qu'en fait, c'est des lieux qui, généralement, quand ils sont établis, en tout cas, ils ont une clientèle, enfin une affluence, donc c'est des lieux repérés, donc les gens y viennent volontiers pour découvrir des programmations, des concerts sans pour autant connaître. Bon, après, quand on est connu, ils viennent aussi pour le groupe et pour le nom, mais souvent, j'exagère en disant peu importe la programmation, mais c'est quand même des lieux qui attirent du monde, peu importe ce qui est programmé pour venir voir de la musique live. Et puis, la dimension surtout de proximité, parle tout le temps de la barrière entre le public et les groupes ou les artistes. Dans ce genre de lieu, il y en a pas, quoi, quasiment de barrière. C'est rarement des scènes élevées. S'il y en a une, c'est une petite estrade ou un truc. Donc on a le public, on peut le toucher, on se voit dans les yeux. Et j'avoue que j'ai toujours été attaché à ça, parce que à partir du moment où justement, moins croiser le regard du public, qu'on voit pas leurs émotions, qu'on sent loin, ben en fait c'est une autre approche. Je dis pas qu'elle est inintéressante, mais c'est une autre approche de proposition aussi artistique, quoi. Du coup, j'ai compris ça assez tard. Enfin, assez tard. J'ai mis du temps à le comprendre, mais en fait, c'est vrai que pour s'adapter à ce genre de conditions, des grosses scènes et festivals, on adapte le show entre guillemets aussi. Et moi, en fait, j'ai jamais osé et voulu vraiment assumer cette posture de proposer un gros show entre guillemets pour des gros festivals et grosses scènes en tant qu'individu seul sur scène, tu vois. Faut commencer à envisager une scéno, peut-être de la vidéo, enfin tout un truc qui, pour l'instant, moi je voulais vraiment, vu que le projet que je propose, moi c'est un truc qui vient de la rue justement. Avant de faire ça, je faisais du théâtre de rue, ça. Et c'est juste important que l'échange soit direct, sincère, vrai, et que ce soit humain, quoi, que ça reste humain. Donc ouais, voilà.
On comprend aussi dans ce que vous racontez là, Manuel, que donc vous êtes lancé au Café de la Plage devant 10 personnes avec un set un petit peu pas tout à fait rodé, ou en tout cas c'était le début de votre projet. Est-ce que ces lieux apportent aussi des conseils et puis vous ont permis de développer, disons entre guillemets, améliorer ou en tout cas trouver d'autres choses à mettre dans votre projet?
Ouais, énormément. Énormément, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, en fait, quand je retourne jouer dans un café-concert, j'ai le plaisir de retrouver... Enfin, je sais que je vais avoir les conditions... En fait, je vais pas avoir trop de pression. Bon, après, c'est très subjectif aussi, parce qu'on n'est pas obligé de se mettre la pression. Mais comme je dis, dans un festival, c'est assez calibré. On a 3/4 d'heure pour jouer en général, 50 minutes. Ça s'enchaîne, un line check, pas vraiment de balance. Et quand on arrive, il faut être dedans, on propose un programme qui est quand même établi, on sait où on va, et tac, 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 on enchaîne, et bim, merci, c'était tout pour aujourd'hui, et puis au prochain un peu, c'est un peu ça, quoi. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, on a intérêt de savoir où on va, et ce qu'on fait, et ce qu'on propose. Dans un café-concert, en général, des fois, c'est un coplateau, on est 2-3 groupes, mais des fois, on est tout seul. Et on a toute la soirée. Et du coup, ça nous laisse une ouverture déjà dans le temps. On peut aménager le set comme on veut. On peut faire un premier set, une pause, et puis un deuxième set plus tard. On peut faire tout d'un coup, sans interruption. Et donc déjà dans le temps, ça permet une ouverture, mais aussi, en fait, ça laisse la place au direct, à l'improvisation, à essayer des choses. Enfin, moi, c'est pour ça qu'en fait, je crois que c'est les conditions, dans mes conditions favorites, c'est que je ne suis pas obligé de proposer un programme trop défini où je sais où je vais et que du coup, peut-être que je perds un peu de ma spontanéité, de ma sincérité, parce que je sais exactement ce qui va se passer. Alors que dans un café-concert, bah, je laisse la place à... J'essaye un morceau. Tiens, j'ai essayé un plan cette semaine. Il n'est pas en place. Mais je peux me permettre de le tester et puis de faire une variante sur un morceau déjà connu. Donc on essaye beaucoup de choses. Voilà, il y a vraiment de la place pour le direct, pour la spontanéité et pour la sincérité. Et je pense que c'est quand même des valeurs qui comptent énormément dans le spectacle, dans l'artistique et qu'il faut garder. Donc moi, j'aime bien ces conditions. Ouais.
Comment percevez-vous, vous, Manuel, la place de ces micro-lieux dans la diffusion de la culture, de la musique, aujourd'hui ?
Disons que c'est hyper important parce que, d'une part, si je reviens à mon exemple, moi, c'est la façon dont j'ai procédé, en tout cas, pour me faire connaître. En plus, c'était vraiment ma devise, c'était « joue à fond au plus possible et le bouche à oreille, si ça marche, ça marche. » Enfin, c'est comme ça que tu... Donc, en fait, j'ai pas trop misé sur la communication, des réseaux, Internet, tout ça. C'était vraiment, plus tu joueras, plus il y aura des gens qui te verront. Et éventuellement, si ça plaît, bah, ils en parleront. Et puis, ça te fera aller jouer d'un endroit à un autre. Puis, ben voilà, en fait... dans ces lieux, finalement, il n'y a pas que du public, on va dire, qu'il y a aussi en fait des gens qui programment ailleurs. Donc en fait, dans un bar un soir par hasard, quelqu'un qui te voit jouer, et puis bam, en fait, lui bosse pour tel festival ou telle structure, il en parle à son équipe, et puis hop, un jour, tu te retrouves à jouer ailleurs grâce à ça. Donc, avant tout, pour ça, c'est quand même important. Et puis, d'autre part, en fait, on sait un peu comment ça fonctionne. En plus, dans la musique, c'est beaucoup... C'est le milieu underground qui nourrit en fait la scène actuelle, quoi. Enfin, les scènes, je veux dire, les groupes qui un jour cartonnent, entre guillemets, ou tournent, font parler d'eux, attirent le public. C'est souvent en fait des groupes qu'on a été chercher dans l'underground, quoi. Et c'est valable pour énormément de styles musicaux, en fait, que ce soit... Enfin, ouais, énormément de styles musicaux, en fait, c'est la drum and bass ou même le hip-hop. Enfin, en fait, les artistes qui revendiquent justement quelque chose de vrai, de sincère. Alors, dans le hip-hop, c'était revendicatif, engagé, tout ça. Mais en fait, c'est cela qu'on va chercher, et puis même au trans, quoi, au trans musical, qu'on dit que c'est un peu un festival qui met en valeur des groupes. C'est souvent quand même, enfin voilà, tous les programmateurs ont le souci d'aller chercher le petit truc que tout le monde ne connaît pas et qu'on a envie de faire découvrir aux autres parce que ça mérite, donc voilà.
Pour terminer, Manuel, comment vous voyez l'avenir de ces micro-lieux, des cafés-concerts et de peut-être leur rôle dans la scène musicale actuelle ?
Je suis pas très confiant, moi, quand il s'agit de parler d'avenir en général. Donc, je pense que cette idée rejoint aussi l'idée de ce dont on parle. C'est un peu, j'ai un peu tendance à croire, c'est soit on devient gros. Et on met le pied dans l'industrie, soit donc on accepte de faire le jeu du show de l'industrie, de la professionnalisation et tout ça, soit on reste indépendant, underground et peu de moyens. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que nos sociétés se dirigent quand même vachement vers des trucs un peu clivants, comme ça, assez binaires, de t'es in, t'es out, quoi. T'es dans la machine, t'es pas dans la machine. Et donc, si t'es pas. Enfin, en fait, il n'y a pas de demi-mesure. J'ai pas l'impression qu'on tend à favoriser et à pérenniser des petites structures. Donc, j'ai tendance à avoir peu de confiance pour tout ce qui reste petit et qui. Enfin, qui est petit, qui veut rester petit, qui. Voilà, j'ai l'impression que c'est. On produit gros. C'est comme l'agriculture, quoi. Faut produire gros, en masse. Et j'ai l'impression que la culture, ça prend beaucoup cette direction-là aussi, quoi. Des gros festivals, des grosses salles et beaucoup de monde à venir. Et les petites salles, les petits machins, bah, c'est... Voilà, mais je pense que ça correspond aussi à... Ben ouais, la température ambiante aussi, globale un peu, quoi. C'est soit on marche un peu aveuglément... Soit on essaye d'être un peu d'ouvrir les yeux, d'être un peu plus conscient, mais du coup c'est plus ça s'apparente plus à un combat, voilà.
Eh bien, en espérant que la température soit plus favorable et que les cafés-concerts puissent y voir plus clair, hein, c'est tout ce qu'on souhaite à ces micro-lieux. Merci beaucoup, Manuel Kemizet Elmaut, de nous avoir apporté votre regard en tant qu'artiste et votre regard et expérience aussi sur ces lieux.
Eh ben, avec plaisir. Merci pour l'invitation.
C'est la fin de cet épisode. Alors, pourquoi pas se faire une petite virée dans l'un de ces lieux près de chez vous pour les soutenir et continuer de vibrer au son de ces artistes et groupes programmés. Si ce n'est pas possible, là, tout de suite, vous pouvez toujours écouter cet épisode consacré au Kuta et continuer votre périple de découverte des micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne sur corelab.org. À bientôt pour un nouvel épisode.
C'était Notes de comptoir, un magazine produit par la Corelab et par Radio Boa, la radio régionale associative bretonne en DAB+, avec le soutien du Centre national de la musique.